1, 2, 1, 2.
Parlons vrai, parlons assurance avec BNP Paribas.
Financer et assurer mon appart au même endroit, j'y gagne quoi?
En fait, chez BNP Paribas, on vous offre 2 mois d'assurance habitation lors de la souscription de votre crédit immobilier. Et ensuite, tous vos contrats sont détenus dans votre agence BNP Paribas. C'est quand même plus simple pour vous.
BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change. Assurance habitation BNP Paribas assurée par Avansure. Offre valable jusqu'au 30 juin 2012, conditions en agence et sur bnpparibas.net.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Philippe Charlier est médecin légiste et tous les amateurs d'histoire se rappellent ses conclusions sur les causes de la mort d'Agnès Sorel et son identification des restes de Diane de Poitiers notamment. Alors il nous présente aujourd'hui un nouvel ouvrage, Les grands crimes de l'histoire à la librairie Vuibert, un livre que Franck Ferrand a dévoré littéralement. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je me suis délecté, c'est vrai, de toutes ces histoires, certaines très connues, comme les morts violentes de Thomas Becket, d'Henri IV, du président Lincoln, ou de Trotsky, tué à coups de pique à glace, vous savez. Et puis, il y en a d'autres là-dedans, beaucoup plus obscurs. L'auteur revient notamment sur les circonstances des disparitions troubles de Charles XII de Suède ou de Gérard de Nerval. Autant de beaux sujets d'émission en perspective.
Alors aujourd'hui, vous avez choisi de revenir sur un crime dont la victime était un héritier potentiel de la couronne de France.
Et oui, l'espoir de la branche aînée des Bourbons, disons-le, on est au début du XIXe siècle. Le duc de Berry est assassiné en 1820 à l'Opéra par un dénommé Louvel. À l'époque, la France a été complètement bouleversé par cet assassinat. Je vous propose d'en revivre les instants dramatiques.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
D'abord, la victime. Il s'agit du duc de Berry. Il a 41 ans en ce début d'année 1820. Alors, qui est-il, ce Charles Ferdinand, duc de Berry? Eh bien, c'est le plus jeune neveu du roi de France, Louis XVIII. Son père est le duc d'Artois, le frère du roi. Si vous voulez, c'est donc le plus jeune frère de Louis XVI, son père. Ce qui fait que le duc de Berry est troisième dans l'ordre de succession au trône, troisième seulement, mais il n'en est pas moins l'espoir de la dynastie, car si des enfants doivent naître dans cette famille royale, ce ne pourra être que par lui. Il est né à Versailles, j'allais dire bien sûr, ce duc de Berry, en 1778, ce qui veut dire qu'il a 11 ans seulement au moment de la prise de la Bastille et de l'exil de son père. Le comte d'Artois prend le départ pour l'exil dès le 15 juillet 1789, ce qui fait qu'il va vivre toute son enfance, enfin la fin de son enfance, hors de France. On le voit, jeune homme, combattre la République dans les rangs des émigrés. Et puis, en 1802, sous l'Empire, le duc de Berry a maintenant 24 ans quand il rejoint son père à Londres. Ils habitent au 46 Baker Street. Berry mène à ce moment-là la vie d'un jeune prince insouciant, très porté sur la bagatelle, il faut le dire. Il a de qui tenir, vous me direz. Pourtant, le voilà qui tombe éperdument amoureux. On est en 1807-1808, il tombe amoureux d'une jeune beauté anglaise qui s'appelle Amy Brown. C'est la fille d'un pasteur, elle a 5 ans de moins que lui. C'est une, vous savez, ces espèces de petites beautés un peu graciles, elle est toute pâle, très brune, elle chante bien, elle peint des aquarelles. Et le duc de Berry la sort à l'opéra. En 1808 et 1809, elle lui donne 2 charmantes petites filles et tout ce monde-là va vivre bourgeoisement à l'anglaise. Mes chères petites se portent à merveille, écrit le duc de Berry à un ami, ainsi que leur bonne mère qui fait le bonheur de ma vie. Autant dire que l'exil est assez doux pour cette altesse déracinée. Je jouis de la plus pure de toutes les félicités humaines, aimer et être aimé, écrit-il. Oh, c'est un joli tableau avec sa petite femme, ses jolies petites filles. Malheureusement pour le duc de Berry, l'histoire, la grande histoire, vient frapper à la porte de son gentil petit ménage. En 1814, à la chute de Napoléon, sa famille est rappelée sur le trône. Vous savez, c'est son oncle qui devient le roi, sous le nom de Louis XVIII. Et notre charmant Berry, qui était devenu une sorte d'anglais, hein, il était un gentleman de la city, très élégant, avec un brin d'embonpoint déjà, eh bien, il est obligé de rentrer à Paris, où il fait très vite venir Amy et les petites filles, qu'il confie au bon soin d'un de ses amis, le duc de Coigny. Seulement, bien sûr, il n'est plus question à ce moment-là de mener une existence bourgeoise. Le duc a retrouvé tous ses privilèges, il est fils de France maintenant. Il est troisième dans l'ordre de succession au trône, il a sa maison constituée, sa maison militaire, etc. Il doit tenir son rang, il doit assurer surtout une descendance princière. La grande question qui agite les historiens, et aujourd'hui encore, c'est de savoir si le duc de Berry avait ou non épousé Amy Brown en Angleterre. En tout cas, s'il l'a fait, c'est en grand secret. Et soit c'était un mariage catholique, auquel cas il a été secrètement annulé par le Vatican, mais le Vatican n'a jamais communiqué là-dessus, on n'en sait rien, soit c'était un mariage anglican, et à ce moment-là, Louis XVIII s'est contenté de l'ignorer, purement et simplement. Toujours est-il que le 17 juin 1816, le duc de Berry, il a maintenant 38 ans, épouse une princesse de son rang. Elle n'a que 18 ans. Oh, c'est la ravissante, l'adorable, la charmante Marie-Caroline de Naples, de la branche des Bourbons de Sicile. Elle va faire le bonheur de son époux. Et alors elle est une véritable princesse. Et elle va lui donner deux petites filles qui meurent à la naissance et puis une troisième, Mademoiselle, qui naît en septembre 1819, 5 mois seulement avant l'attentat qui nous occupe aujourd'hui. Alors ça, c'est pour la victime. Maintenant, l'assassin. Ah, là, si vous voulez bien, il va falloir descendre dans une autre couche de la société. Louis-Pierre Louvel n'a qu'un seul point commun avec sa victime, c'est qu'il est né lui aussi à Versailles, en 1783, ce qui fait qu'il a 5 ans de moins que Berry. Il est ouvrier sellier. C'est une époque où le cheval est aussi, sinon plus important que l'automobile aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de métiers autour du cheval. Lui, il est sellier, ça veut dire qu'il est habitué à travailler le cuir. Vous allez voir que ça a son importance. Et surtout, c'est un partisan invétéré de Napoléon. Il n'a jamais pu se remettre de la première chute de Napoléon en 1814 et puis après les 100 jours de sa seconde chute à l'issue de la défaite de Waterloo en 1815. Et il fait partie, vous savez, de ces gens qui s'accrochent. On a perdu, c'est la défaite pour Napoléon. Et ben néanmoins, il va le suivre, il le suit dans son exil, en tout cas dans son exil, jusqu'à l'île d'Aix, figurez-vous. Et sur le port de La Rochelle, au moment où il a vu l'empereur partir, il ne sait pas encore que c'est pour l'île de Sainte-Hélène, il est complètement désespéré, Louvel, et il achète une haleine. Vous savez, une haleine, c'est une sorte de poinçon. Ça fait comme un coutelas très effilé, très pointu, qui sert à transpercer le cuir pour ensuite le coudre. Après tout, c'est dans son métier. En vérité, ça va lui servir à autre chose, et c'est bien l'idée qu'il a déjà à l'esprit. Dès cette année 1815, Louvel n'a plus qu'une idée, exterminer la race des Bourbons. Et puisque le seul qui peut donner des enfants, enfin des successeurs au roi actuel, c'est le duc de Berry, il a d'emblée l'idée d'aller tuer le duc de Berry. Quand je dis que c'est une obsession, chez lui c'est même devenu un but dans la vie.
Un extrait sur Europe 1 de l'ouverture de Démophon, opéra de Luigi Cherubini. A tout de suite sur Europe 1. Nous vous racontons aujourd'hui l'assassinat du duc de Berry.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Avec un récit qui nous plonge aujourd'hui sur Europe 1 au cœur de l'ambiance parisienne de 1820, Franck.
Et de l'ambiance spécifiquement du carnaval, Julia. Vous savez, on a oublié ça aujourd'hui, mais jusqu'à la guerre de 14, la période du carnaval, cette période de février, était extraordinairement festive dans les grandes villes et notamment à Paris. Et là, imaginez que la belle société de la Restauration, on est en 1820, tout ce monde-là fait la fête. Il y a la jolie, la charmante duchesse de Berry qui mène la danse, si je puis dire. Elle est à de tous les bals masqués, le samedi 12 février avec son mari, on l'a vu costumé chez la comtesse Greyful, le duc de Fitzjames fait beau courir la princesse en lui offrant un petit poignard et en lui demandant À quel endroit du cœur faut-il frapper? Si seulement il pouvait deviner. Le lendemain, dimanche 13 février, c'est dimanche gras, il y a une grande soirée à l'opéra et on donne 3 pièces ce soir-là, le carnaval de Venise, le Rossignol, etc. On pense que le duc et la duchesse vont assister à la soirée et d'autant plus que, pour tout vous dire, dans le corps de ballet, il y a une certaine mademoiselle Virginie Oreille qui se trouve être la maîtresse du prince en ce moment. Ah oui, je vous ai dit, il court beaucoup les jupons, ce duc de Berry. On l'appelle duc de Berry, mais vous avez bien compris qu'il est prince de la maison de France. Alors Louvel, cet ouvrier cellier là, il est bien renseigné, il sait tout ça, et on le voit traîner dans le quartier pendant tout l'après-midi. Il faut vous dire qu'à l'époque, l'opéra, c'est pas du tout l'opéra Garnier, hein. Ça se trouve rue de Richelieu, à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui le square Louvois. Quand vous sortez de l'ancienne Bibliothèque Nationale, vous avez un square, là c'était l'ancien opéra de la rue Pelletier. L'entrée de la rue de la loge royale se fait par la rue Rameau, là vous avez une sorte de auvent de toile peinte, et c'est par là que l'on descend de voiture ou qu'on y monte, bien entendu. À 20h, ce 13 février, il faut imaginer, février, il y a un froid très vif, on pense qu'il va geler dans la nuit, il y aura du givre partout au moment de l'attentat. C'est en plus une nuit extrêmement noire, qui n'est percée que par les maigres lanternes d'un Paris qui est beaucoup moins illuminé qu'il ne l'est devenu, évidemment. Et soudain, on entend rouler plusieurs voitures avec des piqueurs, c'est-à-dire tout le personnel de voiture à la livrée d'Artois, aux armes. C'est le duc et la duchesse de Berry qui arrivent avec quelques amis. Il y a Madame de Béthisy, le comte de Ménard, le comte de Clermont-Lodève. Enfin, tous les amis du duc de Berry sont là. Et Louvel aussi est là. Il est dans l'ombre. Il n'a rien fait. Et ce qui est étrange, c'est qu'il va aller jusqu'à rentrer chez lui. Et on le voit circuler dans le quartier du Palais Royal. Et puis, il finit par demander l'heure. Et on lui dit, il est 11h moins le quart. Et il revient, il remonte depuis le Palais Royal jusqu'à cet ancien opéra. Il n'est pas loin de 11h du soir quand le premier acte des Notes de Gamache vient de commencer et la duchesse de Berry bâille un peu. On a à l'époque des petits face à main, on appelle ça, c'est des petits écrans de taffetas bleu qu'on met devant la bouche pour bâiller tranquillement quand on s'ennuie au spectacle. Quelle heure est-il? Demande le duc de Berry. Près d'11h, monseigneur, répond son chambellan. Allons, Caroline, dit-il à sa femme, sois raisonnable. Pourquoi raisonnable? Eh bien parce que la duchesse de Berry est enceinte et qu'elle est enceinte de 2 mois. Ce qui fait que pour l'instant, c'est encore un grand secret. Personne n'est au courant. Et Louvel, l'assassin, l'ignore. S'il savait ça, peut-être qu'il reconsidérerait le geste qu'il s'apprête à accomplir, puisque son but, c'est de mettre fin à la lignée des Bourbons. Mais il n'en sait rien. Finalement, Charles commence à s'impatienter. Il fait demander son manteau, sa cape et son chapeau. « Adieu, Caroline, dit-il, nous nous reverrons bientôt. » Il plaisante. Il descend avec un ami. À ce moment-là, on voit Louvel se faufiler, bousculer le prince au bas de l'escalier. « Oh, voilà un fameux brutal !» lui répond-on. « Prenez donc garde !» dit Choiseul. Et on voit l'assassin qui se sauve. « Je suis assassiné !» dit à ce moment-là le duc de Berry, qui vient seulement de réaliser. « Cet homme m'a tué. Monseigneur, vous êtes blessé ?»« Oui, je suis mort, dit-il, je suis mort. » Il est déjà en train de perdre ses couleurs. « Je tiens le poignard. » Immédiatement, les amis qui étaient autour de lui, Clermont-Lodève et Choiseul, se mettent à poursuivre Louvel dans la rue. Ils vont finir par l'arrêter plus loin. C'est un garçon de café, d'ailleurs, qui va les aider à arrêter Louvel. Et Marie-Caroline, qui a tout entendu, finalement, revient vers son mari. Le prince est soutenu par un gentilhomme. Il y a une dame qui essaie d'empêcher la princesse d'approcher. « Je vous ordonne de me lâcher, dit-elle. « Viens, ma Caroline, que je meure dans tes bras, dit le duc de Berry. » Il s'appuie sur une borne. Il arrache lui-même le poignard. Et à ce moment-là, bien sûr, c'est un flot de sang qui vient maculer les belles robes de soie et de gaze de toutes ces belles dames.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et dans votre récit, Franck, nous venons d'assister à l'assassinat du duc de Berry à l'opéra par un dénommé Louvel.
Exactement, on est en février 1820, c'est la période du carnaval. Cet ouvrier cellier Louvel vient d'enfoncer une haleine dans le flanc du, enfin dans la poitrine du duc de Berry, qui titube et on fait entrer le prince, on l'allonge sur une des banquettes rouges du vestibule. On ouvre à ce moment-là son habit et c'est à ce moment que le sang se met à couler à flot. Je meurs, dit-il, vite un prêtre. Il aperçoit Madame Roulet qui passe. Madame Roulet, c'est l'ouvreuse de la loge du roi. Madame Roulet, dit-il, je suis assassiné. On ramène à ce moment-là Louvel et on le fait monter directement chez l'administrateur. Alors, on commence à prévenir les personnages très importants qui se trouvent là présents dans le théâtre, dont le ministre de l'Intérieur. Madame Roulet entre dans sa loge. Elle dit, monsieur le vicomte, le prince est assassiné. Quoi? Que dites-vous? Dit le ministre qui ne comprend rien. Il faut dire que pendant ce temps-là, l'orchestre continue de jouer. Sur la scène, Mademoiselle Oreille continue.
Il y a un décalage en fait. Ouais.
Mais bien sûr, elle continue de de danser sans se soucier. Pendant tout ce drame, alors qu'on est en train de monter le prince dans le petit salon de la loge du roi, dont une fenêtre donne sur la rue Rameau, le bruit de la musique, le bruit de la rue, celui des applaudissements, tout ça vient créer une atmosphère assez bizarre, un décalage, comme vous dites, Julia. Et là, dans le vestibule, dans l'escalier, dans la chambre de fortune où l'on a finalement installé le prince, et à ses cris étouffés, ses sanglots, et puis surtout, diront tous les témoins, âcre et très spécifique, l'odeur du sang qui imprègne tout. Pendant toute la soirée, à mesure que la nouvelle de l'assassinat va se répandre dans Paris, on va voir tous les gens de la bonne société affluer à l'opéra. Or, ils sont tous en tenue costumée, bien sûr, puisque c'était le dimanche gras. Ce qui donne un côté, si j'ose dire, bien avant l'heure, surréaliste à cette nuit glacée de février. Dans le bureau de l'administrateur, on interroge Louvel. « Pourquoi aviez-vous deux poignards ?» lui demande-t-on. « C'était pour un autre, dit-il. Il ne manque pas de monde en France. » Quand même bien allumé, le Louvel. On entend les râles de douleur du prince à ce moment-là, qui demande grâce, grâce pour son assassin. Et à ce moment-là, il y a cette scène assez étonnante. C'est à cet instant qu'on voit des larmes perler dans le regard de, dans les yeux de Louvel. C'est-à-dire que Louvel a été ému que sa victime demande grâce pour lui. Il faut dire que le prince commence à divaguer un peu. Il y a la douleur, il y a l'épuisement. Il conserve néanmoins ses esprits. « Ma femme, es-tu là ?» dit-il. « Je suis auprès de toi, je ne te quitte pas, » répond la duchesse de Berry. « L'assassin est-il un étranger ?» Et quelqu'un répond. « Non, monseigneur. »« Ah, il est cruel de mourir de la main d'un Français, » dit-il. « Il faudra que j'aie sans doute offensé cet homme. » Le docteur Bougon va sucer la plaie. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque pour faciliter l'écoulement du sang. « Mais que faites-vous là, mon ami ?» lui dit Louvel. Lui dit, pardon, le prince. L'arme était peut-être empoisonné. Alors on va vite demander à l'assassin qui répond non, l'arme n'était pas empoisonnée. Imaginez la scène, Marie-Caroline qui sanglote. Ça n'en finit pas. La mort du duc de Berry, ça va demander des heures. On est à l'opéra, ça tombe bien parce que c'est une mort d'opéra, si je puis dire. Il n'en finit pas de rendre son dernier souffle. Et à ce moment-là, on a enfin prévenu, la salle est au courant, et arrive Virginie, sa maîtresse du moment, qui essaie d'entrer dans la loge. Et comme tout le monde est très occupé à l'esprit ailleurs, on la laisse entrer jusqu'au prince. Ça fait un scandale pas possible. Évidemment, dès qu'on se rend compte du scandale, on la rattrape par les aisselles, on la fait sortir de force. Elle sanglote, elle aussi. Personne ne sait, elle est la seule à savoir qu'elle aussi est enceinte, décidément. Elle est enceinte du duc de Berry. Finalement, on transfère le prince, on peut dire cette fois mourant, dans encore une petite pièce derrière où l'on installe un lit de fortune, on le déshabille, on lui applique des ventouses, on lui fait un bain de pied. « Ah, pourquoi me torture-t-on ainsi ?» dit-il. Le poignard est allé jusqu'au cœur. On lui impose des saignées, des lavements, enfin on le torture, et effectivement arrive enfin le duc et la duchesse d'Angoulême, c'est-à-dire son frère et sa belle-sœur, et puis son père, monsieur, donc le comte d'Artois, qui arrive avec du retard car sa voiture n'arrivait pas. Finalement, il est venu dans la voiture de Jules de Polignac, et dès que le prince l'aperçoit, dès que son fils l'aperçoit, il dit à son père « Grâce, j'ai sans doute offensé cet homme ». Et là, on se rend compte que Dupuytren est arrivé. Dupuytren, c'est le grand chirurgien de l'époque, vous savez. On décide de sonder la plaie avec l'autorisation du patient. Et là, Dupuytren va enfoncer les doigts dans la plaie, ce qui arrache au prince, bien sûr, un hurlement tel qu'on voit frémir toute la rue. Car la foule, maintenant, s'est accumulée dans la rue devant l'opéra. Et au cœur même de cette foule, il y a celle qui a été plus que l'amie, qui a été probablement la femme, qui en tout cas est la mère des enfants chéris du duc de Berry, puisque Amy a été prévenue et que finalement elle est là, mais qu'on n'ose pas la laisser entrer. Finalement, on va la faire venir jusqu'au prince. Je vous dis que les heures se suivent, le prince n'est toujours pas mort. Et vous vous dites, mais où est le roi? Ben, le roi, il est obèse, vous savez, il est complètement impotent, le roi Louis XVIII. Donc il faut le sortir de son lit, il faut le transporter en chaise jusqu'à une voiture, il faut ensuite une fois qu'il est arrivé à l'opéra, il faut le mettre sur une sorte de fauteuil pour le monter à bras d'homme jusqu'à la petite loge où se trouve son neveu mourant. Donc en attendant le roi, eh bien, il y a des scènes qui sont assez extraordinaires, et notamment cette scène de réconciliation un peu incroyable, puisque le prince mourant va demander à sa femme officielle, à Marie-Caroline, de se soucier de prendre en charge sa seconde famille, en quelque sorte. Et la duchesse de Berry, essuyant ses larmes comme elle peut et essayant de garder une contenance, se compose un maigre sourire et elle avance devant son mari. Elle lui dit « Vous voyez, j'ai trois enfants maintenant. » Finalement, Louis XVIII va finir par arriver. Le prince a eu le temps déjà de se confesser. Le prince exige de son oncle qu'il accorde la grâce au meurtrier. Or, Louis XVIII ne promet rien. Louis XVIII se retourne vers Dupuytren et lui demande en latin « Super est nespes aliqua salutis ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il ne reste pas un espoir de salut ? Sauf que les souvenirs de latin de Dupuytren sont un peu anciens et qu'il reste quoi ? Il ne sait pas quoi répondre au roi. C'est un autre médecin qui lui connaît mieux le latin qui va lui répondre et qui dit « Non, sire, tout est perdu. » Effectivement, le prince meurt à 6 heures du matin, hein, tout de même. C'est-à-dire que l'agonie a été vraiment longue et pénible et horrible. Dès le 7 juin, enfin quand je dis « dès », il y a quand même un long procès devant la Chambre des Pairs. Le 7 juin, Louvel sera exécuté. Le 29 septembre de la même année, 1820, c'est la naissance du petit duc de Bordeaux, qui donc est l'enfant posthume du duc de Berry, qui lui va continuer la lignée. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que le 5 mai 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. Finalement, on peut dire que Louvel avait fait tout ça pour rien. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Franck.
J'ai été un peu rapide dans ma description, j'ai pris tout ça un peu à la hussarde, mais il va falloir que nous revenions avec vous sur les circonstances, j'allais dire cliniques, de cette mort. Le prince est mort de quoi réellement ? Il est mort d'étouffement, d'hémorragie, de quoi ?
Il est mort d'une hémorragie interne et un tout petit peu externe. Il faut dire que l'outil que Louvel avait utilisé était un outil extrêmement perforant, était l'outil adéquat pour tuer un individu.
Oui, c'est un outil, je le disais tout à l'heure,
de marine,
qui est destiné à percer les voiles et à percer le cuir, ça tombait bien.
Là, c'est un bon cuir, c'est un cuir royal pour le coup, un cuir bleu, on va dire, et c'était remarquablement efficace. On n'a malheureusement pas conservé les rapports d'autopsie, ni même le rapport précis d'embaumement des restes du duc de Berry. Par contre, on sait, vu le schéma classique et clinique, que ce n'est probablement pas le cœur qui a été touché, mais plutôt les vaisseaux adjacents ou les poumons adjacents.
Ce qui expliquerait cette très longue agonie.
Quasiment les 6 ou 7 heures d'agonie, ce qui est très long, avec surtout, je suis d'accord, les médecins et les chirurgiens étaient d'accord pour dire que tout était perdu, qu'il n'y avait rien à faire, sauf attendre la mort. Avec du coup des scènes ubuesques, ahurissantes, où en fait, on essaie d'occuper le patient, on lui met un petit peu d'éther, on lui met du vinaigre sur les tempes,
alors,
des cataplasmes,
si je puis dire,
et même des saignées.
On voit qu'on est dans un théâtre néanmoins, puisqu'on demande du vinaigre pour lui faire un, comment appelle-t-on ça,
un cataplasme.
Oui. Et on ne trouve que le vinaigre à l'estragon qui se trouvait dans la cuisine du théâtre. Donc il sera soigné au vinaigre à l'estragon, si je puis dire.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Il y a ce qui est fascinant, bien entendu, outre l'importance qu'a sur un plan politique, très grande importance la mort du duc de Berry, puisque ça a conditionné le renvoi du premier ministre Decazes, qui était l'ami, quasiment on peut dire l'ami de cœur de Louis XVIII, donc un moment très important. C'est le basculement de la Restauration, réellement.
Vers les ultras.
C'est-à-dire le déport, pour parler avec des termes d'aujourd'hui, de la politique vers l'extrême droite, en quelque sorte. Donc ça a eu un rôle tout à fait essentiel. Et puis, au-delà de ça, ces circonstances totales, vous disiez ubuesques, on est dans un théâtre, les gens sont déguisés et l'on a ce prince qui est en train de mourir tranquillement, si je puis dire, et qui met des heures et des heures et des heures à rendre le dernier souffle.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongé au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Extrait sur Europe 1 du Quatuor à cordes composé par Giuseppe Maria Combini, Franck.
Oui, on est vraiment dans la musique de l'époque et dans cette atmosphère, encore une fois paradoxale, de l'assassinat de son Altesse Royale Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry, héritier du trône de France. Nous étions dans la nuit du 12 au 13 février 1820. Comment fait-on aujourd'hui, Philippe Charlier, ça c'est une question qui est toujours fascinante, il y a un côté un peu série policière à l'américaine, comment fait-on 100, bientôt 200 ans plus tard, pour savoir exactement de quoi est mort un personnage comme celui-là. Quelles sont les pièces sur lesquelles on peut s'appuyer ?
D'une part, on a des pièces physiques, puisqu'on a les récits, et puis aussi l'arme qui a été conservée, avec les scellés qui sont datés vraiment du jour même de l'assassinat.
Vous nous avez apporté une photo d'ailleurs de cette haleine qui porte les scellés et la date du 13 février. Donc on voit que les scellés ont été mis immédiatement, bien sûr, sur la pièce à conviction.
Oui. Avec encore le sang qui est présent sur la lame, et ce couteau, en l'occurrence cette haleine, est conservé aux Archives nationales à Paris, comme toutes les pièces justificatives de cet assassinat. On a aussi, heureusement, des témoignages qui ne sont pas littéraires, mais qui sont de première main, notamment le mari de l'ouvreuse de la loge du roi, dont on a parlé, qui nous décrit heure par heure, minute par minute. C'est une précision, on a l'impression de lire dans son récit du Truman Capote au 19e siècle. Il décrit même la position des objets, etc., les éclats dans les miroirs, c'est assez incroyable. Et il nous dit, par exemple, que d'abord, on a cette durée qui est extrêmement étendue d'agonie, et on a aussi des stigmates qui sont ceux du choc hémorragique qui s'installe. On a le duc de Berry qui se plaint de chaleur, alors qu'il n'y a que quelques lustres et il est complètement torse nu. Oui. Donc il n'a pas de raison d'avoir chaud, hormis cette sensation de malaise vagal qu'on peut avoir quand on perd beaucoup de sang ou quand on est ému, et en l'occurrence prendre un coup de couteau ou un coup d'haleine, c'est une grosse émotion, j'imagine. Ensuite, on sait qu'il ne fait pas qu'il n'a pas d'urine, il ne va pas aux toilettes. On l'aide un petit peu avec des cataplasmes bas situés, avec des ventouses et autres, avec des lavements. Même lorsque Louis XVIII arrive, on allait commencer à lui faire un lavement. Évidemment, on s'arrête tout de suite. Tous ces signes-là sont même augmentés par les saignées qu'on lui prodigue, qui sont complètement contre nature. En revanche, il ne faut pas s'étonner du fait qu'on retire les caillots dans la plaie ou qu'on suce le sang. C'était la procédure habituelle à l'époque. On considérait que les caillots empêchaient la cicatrisation et que c'était de bon goût, on va dire.
Il faut le cœur bien accroché pour être médecin, mais à l'époque, peut-être davantage encore.
Les moyens étaient malheureusement assez limités, on va dire.
Est-ce que la mort aurait pu être évitée ? Est-ce qu'on aurait pu sauver le duc de Berry ?
Dans l'état actuel des connaissances médicales, oui. À l'époque, absolument pas. Non, malheureusement, il n'y avait rien à faire. Et même si les moyens employés semblent dérisoires et presque comiques, malheureusement, non, il n'y avait rien à faire, sauf attendre la mort.
Les moyens employés et le manque total de connaissance du crime de la part de Louvel, puisqu'il n'a pas du tout frappé là où il aurait fallu.
Il frappe au cœur, mais maintenant on peut frapper.
Il essaie de frapper au cœur, mais pas vraiment finalement.
Voilà, la lame peut être complètement biaisée ou autre chose. Et il a dû riper sur le cœur, mais pas le toucher directement. Le résultat est le même.
Oui. Alors c'est très intéressant ce que vous faites, c'est-à-dire reprendre les cas médicaux d'autrefois. Et en l'occurrence tous ces grands crimes, et essayer de voir ce qui s'est réellement passé et de quoi sont morts les gens aussi, parce que c'est souvent on a des surprises, bien entendu.
Alors dans le cas présent pour le duc de Berry, ça serait facile d'avoir confirmation de ces diagnostics rétrospectifs, puisque le duc de Berry a été embaumé, a été conservé. Il est maintenant dans trois contenants différents, si je peux dire, dans la chapelle des Princes à la basilique Saint-Denis, dans son cercueil qui embaume une odeur délicieuse de camphre liée justement à ces produits de conservation corporelle. Il y a le corps vidé de son cœur dans un reliquaire juste à côté, avec peut-être des lésions traumatiques, mais je ne pense pas.
Et puis le reste. Je sens que vous vous frottez déjà les mains.
Ça présente un intérêt scientifique évident et historique aussi, je pense. Et puis aussi les entrailles qui sont dans un seau d'entrailles à côté, pareil, avec les mêmes types de produits d'embaumement, j'imagine. Comme également les corps de ces deux petites filles. Il y a Louise Isabelle d'Artois et une autre qui n'a pas de nom, dont malheureusement les cercueils sont complètement éventrés, très mal conservés, ce qui sur le plan humain et moral est particulièrement dérangeant.
Pour travailler sur la dépouille du prince, il faudrait l'autorisation de l'actuel chef de la maison de Bourbon, c'est ça ?
Je n'en ai pas la moindre idée. Il y a un vrai problème qui est celui de à qui appartient un corps mort, ouais, ancien, et surtout, est-ce que ce sont les descendants, est-ce que c'est l'État, est-ce que... Il y a une vraie ambiguïté pour l'instant.
Oui, c'est une question qui se pose d'ailleurs non seulement pour le duc de Berry, mais pour un très grand nombre de dépouilles historiques. Et bien entendu, vous me voyez venir avec mes gros sabots pour celle de Napoléon. Nous venons dans un instant, si vous le voulez bien, Philippe Charlier, à d'autres cas, à d'autres grands crimes de l'histoire, puisque c'est le titre de votre ouvrage à la librairie Vuibert, Les secrets des grands crimes de l'histoire, par Philippe Charlier.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes toujours en compagnie de Philippe Charlier, qui est médecin légiste et anthropologue, Franck.
Et oui, et qui donc nous permet d'y voir plus clair dans les grands J'allais dire les grands crimes, pas seulement, dans toutes les grandes morts de l'histoire. Alors là, en l'occurrence, ce sont bien des crimes auxquels vous vous intéressez. Les auditeurs qui sont à l'antenne depuis plus d'une heure maintenant, se sont rendus compte que je n'ai pas fait de passage d'antenne tout à l'heure chez Guillaume Caour, parce que je me suis tout simplement replongé dans les dernières lignes de votre livre, et j'étais happé par ce que vous racontez, qui est d'une horreur absolue, et du coup, j'ai laissé passer l'horaire. Et
Merci du compliment.
Ce que j'étais en train de lire, c'est la description de ce gibet de Montfaucon, ce mythique gibet de Montfaucon, bien entendu. Il faut expliquer en deux mots de quoi il retourne. C'est l'épilogue de votre ouvrage.
C'est un endroit magique pour les médecins,
si l'on peut dire.
Pour les médecins légistes et les anthropologues, en l'occurrence. Donc, ça se situe juste à côté, maintenant, de l'hôpital Saint-Louis, à l'emplacement de ce qui est maintenant la rue de la Grange-Aubel. Et en l'occurrence, imaginez un gibet construit toute fin du XIIIe, début du XIVe siècle. Et à cet endroit-là, vous avez une sorte de carré à 3 ou 4 étages. Il y a une incertitude architecturale avec des corps de suppliciés qui sont soit suspendus ici, pendus littéralement.
Ça fait comme une sorte de grand mur à arcature en fait. Alors il y a trois, ça fait un quadrilatère dont seuls 3 des murs sont dressés. Les murs en question sont pleins d'arcades et dans les arcades il y a des chaînes de fer auxquelles on pend les condamnés, les morts.
Et on peut suspendre à peu près
exécuter.
80 personnes à peu près peuvent être suspendues en même temps, sachant qu'il y a du renouvellement évidemment.
Charmant spectacle.
Et surtout on laisse les corps se décomposer, se putréfier, se squelettiser, se fragmenter. Les corbeaux viennent piquer partout où ils peuvent.
Pensez à François Villon, hein. Plus piqueté d'oiseaux que des accoudres, dit-il.
Exactement. On est en plein dans une balade de pendus, sauf que là ils se baladent plus trop malheureusement. Et on attend qu'ils se décrochent, ou alors on vient les décrocher. Parfois les familles se chargent de les décrocher, ce qui est à la limite de la légalité. Et les corps sont privés de sépulture chrétienne. Ils sont jetés dans une sorte de fosse qui est une cave au centre de ce quadrilatère. Et là, eh bien, ils sont transformés et les bêtes sauvages viennent manger ce qu'il en reste. On peut imaginer l'odeur pestilentielle et on peut aussi imaginer l'ignominie parce que c'est un gibet qui est sur le bord de la route, qui est destiné à être vu, qui est sur une relative éminence. Il doit faire peur. Il a un caractère dissuasif relatif, évidemment. Et comme il est extrêmement important, si on pend quelqu'un ailleurs dans la périphérie de Paris, on va le suspendre là de façon secondaire parce que c'est l'endroit où doit finir un condamné à mort pour être vu du maximum de gens.
Et alors cet endroit, ce gibet de Montfaucon, peu à peu a servi de moins en moins, bien entendu. Il perd son usage à la fin du XVIIe siècle. Il devient totalement... c'est devenu un vestige au XVIIIe.
Une friche.
Friche.
Il est démembré en partie. Ensuite,
sous Louis XV. Ensuite, sous la Révolution, il est carrément rasé, en fait. Et c'est là qu'on en fait un équarrissage.
On en fait un équarrissage et deux chimistes...
c'est un endroit maudit, hein, quand même.
qu'on puisse dire.
Mathieu Orfila et Le Sueur vont décrire en fait les odeurs pestilentielles qui émane toujours de cet endroit-là. Donc on est vers 1816-1820 à peu près et l'odeur est toujours infâme et le lieu infréquentable. Il va finir par être définitivement rasé, cette fois-ci la cave, et les squelettes jetés au rebut lors du percement du canal Saint-Martin juste à côté.
Ça rigole pas mal en régie, j'ai l'impression.
Oui, c'est une défense hein, face à l'horreur.
Qui disait que cette émission n'était pas appétissante, Julia, en fait. Bon appétit à ceux qui sont encore à table. Alors, on va rester dans le crime, mais sortir de cette horreur. Il y a un personnage, évidemment, qui vous est très cher, puisque vous êtes occupé de sa tête, c'est Henri IV.
Oui, alors Henri IV, on est vraiment dans un assassinat politique, pour le coup, avec Ravaillac, qui n'a de cesse d'essayer d'assassiner Henri IV. Il essaye plusieurs fois au sortir du Louvre, au rentrer du Louvre, etc. Alors, autant l'authentification récente de la tête d'Henri IV n'a pas apporté d'arguments particuliers sur cet assassinat, sur les circonstances de sa mort, sauf peut-être une conservation, on va dire, qui a été facilitée, une momification qui était facilitée, donc un travail de l'embaumeur, parce que le pauvre Henri IV a perdu tellement de sang qu'il s'est presque desséché un petit peu, il a été saigné, pardon de ce terme qui est presque alimentaire ou culinaire, et du coup ça facilite la conservation des chairs, notamment au niveau du crâne et de la tête. Le cerveau en l'occurrence est toujours dans la boîte crânienne, il n'y a pas eu de sillage. C'est une tête qui est très bien conservée, mais malheureusement il n'a rien appris de plus sur l'assassinat. Cela dit, c'est la mort ou une des morts les mieux documentées de tout le XVIIe siècle, on n'avait pas grand chose à en apprendre.
Alors, il y a un certain nombre des grands crimes que vous racontez que je connaissais bien évidemment, c'est mon métier, mais il y en a certains que je ne connaissais pas du tout, et notamment il y a ce cas passionnant et qui ferait une émission à part entière, d'ailleurs il faut qu'on note ça sur nos tablettes, c'est la mort de Charles XII de Suède. Ça c'est assez fascinant ce que vous racontez là.
Ce qui est fascinant c'est surtout la recherche...
Il faut le situer ce Charles XII d'ailleurs.
Alors, Charles XII de Suède, on est dans une période d'opposition des États du nord de l'Europe. On est dans une période où il y a un affrontement armé entre la Suède et ses États voisins. Et Charles XII est un roi qui est militaire, qui s'implique vraiment, qui ne reste pas sur les lignes de défense, qui est vraiment sur le front. Et un soir, par une nuit propice, on va dire, au crime, eh bien, il va recevoir un projectile en pleine tête qui va le tuer sur le coup. Le seul problème, c'est est-ce que ce projectile, qui est une balle très particulière, a été tirée de son propre camp. Est-ce que c'est un assassinat politique,
c'est ça la question.
Ou est-ce que c'est un fait de guerre simple et banal?
Alors le projectile. Mais c'est trouble. Les circonstances sont vraiment, c'est inextricable. On dirait le début d'un roman policier là aussi. Hein.
Avec pour le coup une solution puisque le corps a été conservé, le projectile est potentiellement voilà. conservé lui aussi, retrouvé de façon rocambolesque en marchant dans la terre comme ça par un soldat quelques temps plus tard, donc c'est quand même quelque chose d'assez suspicieux, mais son aspect, les données balistiques de cette balle en fait qui est un petit peu chemisée de cuivre permettent d'expliquer des lésions qu'on observe sur le crâne et sur la tête embaumée de Charles XII puisque lui est toujours conservé. Le crâne a été examiné par des médecins juste au décours des faits, ensuite par des médecins légistes quelques temps plus tard, 50 ans plus tard, et à nouveau au tout début du XXe siècle. Alors maintenant, il ne s'agit plus de le redéranger. Mais on a déjà l'ensemble des données, l'ensemble des pièces, et en pratique, vraisemblablement, il s'agit d'un crime qui est politique, d'un tir qui a été fait de son propre camp, par un homme qui était vraiment sur la... Comment dire ? Il imaginait des nouveaux projectiles et le projectile, qui est une balle d'argent chemisée de cuivre, ne sera en fait inventé et utilisé de façon plus fréquente que, on va dire, 20 ou 30 ans plus tard. Donc on est sur un projectile tout à fait novateur pour l'époque, utilisé pour un crime bien précis. Oui, ça a un côté rocambolesque certain, tout à fait, de crime presque parfait. C'était sans compter sur les médecins légistes du XXIe siècle.
On se demande même pourquoi, après tout, il y a des accidents de chasse qui n'en sont pas, on se demande pourquoi il n'y a pas plus de crimes à la guerre, ou alors il y en a beaucoup et on ne l'a jamais su. C'est peut-être ça aussi. On se pose des questions quand on lit
c'est bien possible.
Votre ouvrage. On se pose aussi des questions sur les figures les mieux connues de notre panthéon. Moi, on m'a toujours appris à l'école que Gérard de Nerval s'était suicidé. C'est d'ailleurs ce que la police elle-même a conclu. Et vous dites, pas si sûr que ça, pas si évident en tout cas.
C'est pas si évident par expérience, si je peux dire. Lorsqu'on se suicide par pendaison, on est pris de convulsions, de trémulations et il est difficile de conserver son chapeau haute forme, comme le cas de Gérard Labruni sur sa tête. Donc c'est quelque chose d'assez suspicieux, avec en plus un état pathologique sous-jacent, c'est sûr, des fréquentations assez rapprochées de la clinique du docteur Blanche, des troubles psychologiques et neurologiques liés à la syphilis, etc., et au traitement de la syphilis. Mais oui, ce haut de forme toujours placé sur sa tête, et puis cette pendaison, cette non-autopsie qui est vraiment dommage, il y a eu juste un examen externe de corps, mais pas d'autopsie. On manque de pièces pour être sûr du suicide.
Philippe Charlier, Les secrets des grands crimes de l'histoire, c'est édité à la librairie Vuibert. Nous vous avons, j'espère, et Philippe Charlier a tout fait pour, mis l'eau à la bouche.